qu'en ce 4 octobre, dans l'univers entier, c'est la fête de Saint-François d'Assise, dont je vous avais longuement parlé l'an dernier. Mais je voudrais quand même vous parler un peu de François d'Assise encore une fois, quitte à y revenir plus longuement l'an prochain ou dans 2 ans. Si Dieu me prête vie, je voudrais vous parler aujourd'hui surtout de Georges Desvallières, qui est mort lui aussi en 1950, un 4 octobre. Disons un mot de Saint François d'Assise quand même. Chacun sait qu'il est né en 1182 à Assise, donc il y a bien longtemps. Mais c'était une époque qui était marquée par un grand essor du commerce, un peu comme dans notre civilisation aujourd'hui. Son père était un riche marchand, vendait du tissu. Et il venait faire des bonnes affaires en France, et c'est comme ça qu'il a appelé son fils François, ou le Français. Et comme il était fils d'une famille très fortunée, bien François a mené une belle vie, si on peut dire, dans le sens mondain du terme, avec ses amis, puis il a ressenti très jeune l'appel au fond de son cœur. Cet appel qui ne dément pas, hein, l'appel du Christ. Ceux qui l'ont senti et entendu savent ce dont je parle. Il a donc dû rompre avec sa famille, et chacun connaît ça, hein? Refuser le monde de l'argent. Alors il se dépouille de ses vêtements, il les donne à son père, et nu, oui, il vient se mettre sous la protection de l'évêque d'Assise. Jeune audacieux, hein? Très audacieux. Et il dit qu'il veut épouser la dame pauvreté, alors il adopte un genre de vie qui fait penser aux folles en Christ. On les appelle comme ça les folles en Christ, c'est-à-dire les saints russes, dont je vous parlerai un jour. Il y a de très beaux livres là-dessus sur les folles en Christ. F-O-L-S, c'est une façon d'expression. Utilisons les fous du Christ, si vous préférez. D'ailleurs, on nous dit que beaucoup de ses concitoyens l'ont pris pour un fou à l'époque. Mais en fait, il va devenir l'un des plus parfaits modèles, si on peut dire, de ces petits dont parle Jésus dans l'Évangile, hein, à qui il est révélé que ce qui reste caché aux sages et aux savants, qui souvent perdent leur cœur, leur enthousiasme, leur passion et leurs élans mystiques, pour jouer avec les blocs de la pensée, eh bien, les sages se perdent dans leur jeu de blocs. Et ceux qui sont humbles et petits, comme Hans-Urs von Balthasar, qui était peut-être le plus grand savant de ce siècle, mais il était petit dans son cœur et humble. Eh bien, François, lui, tout simple, tout jeune, a été très humble. Et des compagnons sont été attirés par son idéal, hein? Sont venus se joindre à lui. Il y a Saint-Clair aussi qui l'a suivi. Je vous ai fait d'ailleurs une émission sur Saint-Clair le 11 août. C'est il y a plus d'un an. J'avais fait la moitié sur Saint-Clair et l'autre moitié sur le cardinal Newman qui est mort aussi un 11 août. Je reviendrai là-dessus un jour. Alors, son mouvement se développe rapidement. Il voulait pas fonder un nouvel ordre religieux, il voulait grouper simplement des hommes, à une époque où la société était toute en mutation comme la nôtre, et où l'argent prenait la place, hein, comme une idole, comme aujourd'hui l'argent et le sexe, puis il irait proclamer avec ses amis les exigences de l'Évangile. Et son mouvement, ben, ça n'a pas échappé aux responsables, et puis, dans une notice consacrée à Saint-Dominique, dans un songe, le pape Innocent III a vu Dominique et François, Saint-Dominique, Saint-François, soutenir l'Église qui menaçait de s'écrouler. C'est ce dont nous avons besoin, des saints, des réformateurs, des gens pleins d'amour et de rayonnement. C'est ce qu'il nous faut à notre Église de nos jours. Ce groupe qu'on appelait la Fraternité des pénitents d'Assise est devenu cet ordre religieux, un peu trop clérical, trop bien structuré. C'était inévitable. On ne peut pas faire autrement et je n'ai pas de blâme à jeter aux franciscains et à tous ceux qui sont membres de ce grand ordre admirable. Je vous rappelle que François n'était pas prêtre, il était diacre. Donc le fondateur va trouver une raison de plus de se détacher. Et puis, quand on va apporter des modifications à ce mouvement qu'il aura établi. Mais ça ne l'empêchera pas de louer Dieu pour tout. C'est un louangeur. Il accepte. Il va chanter la création, d'ailleurs, avec la fraîcheur d'un enfant. Dans son cantique des créatures, que tout le monde connaît. Mais vers la fin de sa vie, il va recevoir les stigmates qui vont l'assimiler à Jésus, jusque dans sa chair. Disons que l'idéal de pauvreté de François, c'était en fait irréalisable à la lettre. Il s'en est rendu compte. Mais on sait dans l'Église aujourd'hui que l'Église a de plus en plus besoin d'idéalistes, un peu des fous de Dieu, des fous du Christ, si on veut garder l'esprit de l'Évangile. Il y a d'ailleurs de très beaux textes dans les vies de Saint-François où on se rend compte que les cardinaux, des hommes importants, avaient compris à l'époque et se rendaient compte qu'on ne pouvait pas condamner François sans condamner l'Évangile lui-même. En cette fête de Saint-François, je ne saurais trop vous recommander de vous procurer, si vous avez quelques sous de côté, là, les œuvres de Saint-François d'Assise parues au Seuil dans la collection Sagesse. Il y a aussi les Fioretti qui sont plus sympathiques à lire, les Fioretti de Saint-François d'Assise, parues dans la collection Livres de Poche, c'est pas cher. Et aussi de Damien Voreux, V-O-2-R-E-U-X, François d'Assise dans les lettres françaises, ceux qui s'intéressent à la littérature. Vous y verrez là toutes sortes d'écrivains qui ont écrit sur Saint-François. C'est très intéressant. C'est paru chez Desclés de Brouwer. C'est un livre lié au paru il y a moins de 10 ans. Puis, il y a Stan Rougy aussi qui va donner une conférence mardi prochain à l'oratoire, à l'auberge de l'oratoire. Stan Rougy a publié François d'Assise, Troubadour et Prophète chez Salvator. Mais Stan Rougy, l'abbé Stan Rougy, qui est un bon ami, qui m'avait envoyé son livre, d'ailleurs, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, en me disant des choses que je peux pas vous lire, parce que c'est tellement louangeur que ça devient exagéré. C'est un homme à l'emporte-pièce, hein, Stan Rougy. Et il ne se gêne pas, des fois. Alors, il va donner une conférence mardi soir à l'oratoire. Quelle prière pour aujourd'hui? Je vous rappelle le beau livre de Julien Green, Sagesse d'un pauvre du père Éloi Leclerc. Il y en a même un du père Éphrem Lompré dont je vous ai déjà parlé, ce franciscain québécois qui a fait sensation en Europe par ses connaissances. Puis il y a le classique de Jorgensen. Je vous ai fait une émission complète sur la conversion de Jorgensen, ce luthérien devenu catholique. J'ai fait ça le 29 mai. Dernier, la cassette est disponible. Et puis, évidemment, qu'il y a la vie de Saint-François d'Assise d'Omer Anglebert. Il y a le beau roman Le pauvre d'Assise de Nikos Kazantzakis. Puis, un beau livre, François d'Assise, Joie et pauvreté de Charles Klein. Ça s'adresse aux malheureux, aux malades, aux handicapés. Je passe maintenant à Georges Desvalières, qui est né en 1861 et mort en 1950. Je m'inspire d'un texte de Pierre Ladoué qui l'a très bien connu. Georges Desvalières était un enfant choyé. C'était la veille de la guerre de 1870. Vous savez qu'il y a eu une guerre terrible en France avec l'Allemagne en 1870. Et donc en Seine-et-Marne, à la veille de cette guerre, il y avait un grand-père là-bas qui se promenait dans la campagne avec son petit-fils âgé de 8 à 9 ans. Et cet homme est un écrivain, un conférencier célèbre. C'est un auteur dramatique applaudi. Comme toutes ses gloires disparaissent avec le temps, on n'en parle plus. C'était Ernest Legouvé, membre de l'Académie française. Tous ces gens se prennent pour les nombris du monde, et quelques années après, on n'en parle même plus. Nous sommes de petites poussières. mais que Dieu aime d'un amour total, et nous sommes aimés de Dieu, choisis de Dieu, désirés par Dieu, créatures éternelles, et si petits que nous soyons, seuls dans notre appartement pauvre, oubliés de tous, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, bien plus précieux que ces gens qui se prennent pour des gens précieux. Et alors Ernest Legouvé, membre de l'Académie française, un grand bourgeois. Il y a une maison à Saint-Port, il possède un hôtel à Paris, un hôtel, c'est-à-dire une grande maison privée avec des serviteurs. Et c'est proche de la bourse. C'est un homme souriant quand même. Il est savant. Son enfant, Georges Desvalières, le questionne à tout propos. Pourquoi, grand-père? Et M. Legouvé prend prétexte de tout pour inculquer au jeune Georges Desvalières qu'il faut être bon et généreux. C'est un bonhomme, cet homme riche. Il est lui-même, en politique, un libéral, un républicain. Il est sceptique en matière de religion, mais il répète volontiers comme saint Paul, « Celui qui a la charité a tout. » C'est un bon chrétien. Sa valeur est là. L'enfant, Georges Desvalières, témoigne une vive affection pour ce grand-père dont les paroles se gravent dans son esprit. Il va même dire plus tard qu'il lui doit d'aimer ceux qui ne sont pas de son avis. Mais aimer ceux qui ne sont pas de son avis. Émile Desvalières, l'époux de Marie Legouvé, lui, son père, sa mère, il aime les arts, s'est essayé à la peinture. C'est pas un incroyant, mais il pratique pas sa religion. Il accompagne sa femme à la messe. À moins qu'une partie de chasse l'en empêche. Que de gens préfèrent aller à la chasse qu'à la messe, hein? Que de gens préfèrent aller à des concerts qu'à la messe. Que de gens préfèrent toutes sortes de choses qu'à la messe. Et quant à la mère, mais c'est une femme de principe, va dire un jour Georges Desvalières de sa mère, très énergique, très fière. Elle a beaucoup prié pour moi, mais elle ne parlait pas. En 1873, Georges Desvalières, petit enfant, tout gâté, fait sa première communion. Je me souviens très bien de ma première communion. J'étais agenouillé sur un prie-dieu de velours rouge, la tête dans les mains, et je me disais, j'y comprends rien. Je n'avais jamais connu qu'une vie parfaitement confortable. J'étais incapable de comprendre le sacrifice, le don de soi. Et au collège, les mauvais élèves. D'autre part, une certaine foi subsiste encore au cœur de cet adolescent. Il va encore à la messe. Son père l'y engage, d'ailleurs. À ton âge, ça vaut mieux. Un jour, pourtant, sa mère l'appelle pour l'accompagner à l'église, puis déclare... Comme Denise Bombardier à la fin d'un de ses livres, L'enfance dans l'eau bénite, je n'y vais plus. Que d'enfants vers l'âge de 15, 16, 17 ans a dit, je n'y vais plus. C'était le cas de Georges Desvalières, et on est en 1876, il a 15 ans. Peu à peu, il se détache tout à fait de toute chose religieuse. Comme on dit, les occupations de la vie, dans laquelle il va rentrer, là, ça achève de lui faire perdre la foi. Et cependant, le grand-père a décelé chez son petit-fils des dispositions plus grandes pour les arts plastiques, comme on dit, que pour les études littéraires. Et le petit Georges a décidément l'étoffe d'un artiste. Et le grand-père, qui l'aime beaucoup, l'adresse d'abord à son ami Élie Delaunay. Et c'est chez Delaunay que notre jeune homme va faire ses premières armes. Il atteint ses 17 ans, son grand-père lui a aménagé un atelier sous les combles de la maison familiale. Il va même jusqu'à se mettre lui-même à l'étude de la peinture, de l'histoire de l'art, afin, dit-il, c'est un bon grand-père, hein, d'établir un lien de plus entre ce garçon et moi, pour pouvoir le suivre dans ses travaux. Et bientôt, Georges Desvalières commence à se rendre chez Gustave Moreau, le grand Gustave Moreau, à qui Delaunay l'a présenté, puis il va subir longtemps l'influence de cet enchanteur qui a été le maître de Georges Rouault. Gustave Moreau était un peintre chrétien et Georges Rouault l'un des plus grands peintres catholiques de ce siècle. Et nous verrons la progression spirituelle de Georges Desvalières et sa grande conversion. Alors les 20 dernières années du 19e siècle vont être pour Georges Desvalières des années d'inquiétude et de recherche. Il cherche son style... Il cherche Dieu, mais surtout, c'est Dieu qui le cherche. La vie lui sourit. Il fréquente des académies de peinture, des salons, des théâtres, des bals. C'est un beau cavalier, comme on disait dans le temps. Aujourd'hui, on dirait que c'est un beau chum. Le langage a changé. Il pratique l'escrime. C'est un jeune homme brillant. Il voyage. En 1882, il est à Venise. En 84, il va à Rome, pas à Florence. En 95, 11 ans plus tard, il va à Naples. Et quelques années plus tard, en 1902, il va à Londres. Il fait la découverte du monde, mais il fait aussi la découverte de ce qu'on appelle à l'époque le demi-monde. Aujourd'hui, ça n'a aucune importance. La moitié de la société est tombée dans le demi-monde. Devrais-je expliquer ce que c'est? Je pars outre. Ceux qui comprennent, comprennent. Il y a des gens qui prétendent qu'une vie désordonnée, c'est une bonne préparation à la foi. Il y a des gens qui disent ça. C'est peut-être vrai dans un certain sens. Difficile de dire, en tous les cas, que c'était comme ça pour Georges Desvalières. Sa vie n'a jamais été vraiment désordonnée, mais ce qui est sûr, c'est que les misères, les déchéances, les bassesses, les laideurs, qui s'étalent sous ses yeux dans les bals de Paris ou dans les bouges de Londres, la tristesse, là, pathétique, des scènes de la vie de plaisir, comme on la voit ici à Montréal, dans le cœur, puis un peu partout dans les villes du Québec et du monde entier actuellement, ou à peu près partout, ces scènes de vie qu'on appelle de plaisir, que lui, il peint avec le désir de faire penser, un peu comme Toulouse-Lautrec, ça lui inspire une pitié infinie, une tendresse justement que Toulouse-Lautrec a ignorée, lui. Et puis on poussait un jour à aborder dans sa peinture des thèmes religieux, finalement, il s'est dégagé de tout ça. Les sujets religieux, mais Gustave Moreau, là, son professeur, ne les déconseille pas d'ailleurs à ses disciples. Il dit d'ailleurs à ses élèves, entrez dans les églises, vous y trouverez des motifs et des inspirations. Alors Desvalières s'y refuse pas. Il lit Huysmans, le roman Là-bas, que j'ai lu cet été en Italie. Très intéressant, ce livre, Là-bas de Huysmans. Il lit aussi En route de Huysmans. Il va entendre le Père Sertilange, la Trinité, et reconnaît que ses instructions l'ont beaucoup éclairé. Il écrit, je résistais. Ça me semblait plein de tant d'absurdités. Le credo, surtout, était ma bête noire. Et Desvalières voudrait croire, il souffre de ne pas croire, des influences continuent, heureusement, de s'exercer sur cette âme, qui est de bonne volonté. Il y a Léon Blois, dont je vous ai déjà parlé aussi, dont Georges Desvalières fait la connaissance, et deviennent très intimes après la mort de Gustave Moreau. Gustave Moreau, lui, meurt en 1898. À ça, Léon Blois lui apporte un encouragement puissant. Il médite d'ailleurs assez souvent la dédicace que Blois trace pour lui en tête d'un de ses livres, parce que Blois écrit beaucoup, hein, à mon ami Desvalières pour le suralimenter. Desvalières admire Léon Blois, qui donnait à ses amis une certaine manière de voir la vie. Ce qu'il y avait de plus beau en lui, c'était sa foi, son sens très fort de ce que doit être un chrétien. Il avait de ces mots qui sont un tonique pour toute la vie. Je me redis souvent, par exemple, « Tout chrétien qui n'est pas un saint est un cochon. » Ça, c'est Léon Blois qui disait ça. « Tout chrétien qui n'est pas un saint est un cochon. » Évidemment, c'est dit Léon Blois. Hein, il était à l'emporte-pièce et ça peut choquer des gens. Ne vous choquez pas, prenez ça avec un sourire. Sachez que Léon Blois était un violent et plein de tendresse en même temps. Alors, de son côté, Madame Desvalières ne cesse de prier pour son fils. Georges Desvalières a pour elle, il va exécuter d'ailleurs en 1903 un portrait très bien connu, qui est au Musée d'Art Moderne à Paris. Mais il a, pour sa mère, une vraie vénération. Puis au lendemain de son mariage, en 1890, il va exécuter une grande esquisse intitulée « Vierge et donateur », où il se représente lui-même aux côtés de sa jeune femme. Je n'étais pourtant pas très croyant alors, mais la Sainte Vierge était ma mère. J'aurais voulu pousser ce dessin, en faire un tableau pour l'église de mon village. Et ainsi, tout le terrain se trouve préparé pour la conversion et se fait en l'église Notre-Dame-des-Victoires, où temps, deux fois l'artiste, en quête de toutes sortes d'impressions, était entré pour s'agenouiller. Ce jour-là, il faisait comme à son habitude, il faisait des croquis, puis une silhouette de prêtre, un prêtre peu élégant, peu soigné sa personne, l'avait particulièrement retenu. Et soudain, il lui sembla qu'une voix lui parlait, sur un ton impérieux. Il entendait ça à l'intérieur de lui-même. « En voilà, si tu vas rester le credo, là, le front sur la pierre. » Curieux, hein? Alors, j'y suis allé, puis je me suis dit, « Maintenant, tu n'as plus qu'à te confesser. » Alors, il est entré dans le premier confessionnal trouvé devant lui, il a décidé à ouvrir son âme au prêtre pour recevoir une direction spirituelle, puis se libérer, puis s'unir à Dieu totalement. « Je me disais, écrit-il, pourvu que ce soit pas ce saligo, ce prêtre qui est si dégoûtant, qui a une très mauvaise allure, là. Or, c'était justement lui qui était dans le confessionnal, et il m'a fait un bien immense. Méfions-nous des jugements rapides qu'on porte sur nos prêtres. Hein. » Alors, il a quitté l'église soulagé, puis était heureux. Alors, c'était une belle étape franchie. Une vie nouvelle commençait pour lui. Et c'est à peu près ce temps-là que date l'œuvre souvent reproduite dans laquelle on peut voir déjà en puissance toute sa future production. C'est le Sacré-Cœur dont je vous ai parlé. C'est un Christ à genoux qui s'ouvre le cœur plein d'amour. Un Christ souffrant et admirable. Très beau Sacré-Cœur. C'est un des Sacré-Cœurs que j'aime le plus. Et on connaît ce tableau pathétique où figure donc ce Christ dénudé. Qui n'a pas vu ça? J'espère que vous avez tous vu ça. C'est un Christ pantelant, couronné d'épines, qui est penché vers la ville remplie de péchés au loin. On aperçoit dans le fond de la composition le dôme et la basilique de Montmartre à Paris. Puis il s'ouvre la poitrine de ses mains décharnées. On dirait qu'il veut extraire son cœur, ce Christ. Exposé au Salon des Indépendants en avril 1906, ce tableau a excité l'enthousiasme de Léon Blois. S'est empressé d'écrire à Georges Desvalières pour lui déclarer qu'il y a vu son âme de chrétien palpitant, de chrétien emporté vers Jésus. Jésus qui souffre. On est à croire que grande fut la joie de sa mère, et pourtant, elle lui a rien dit. Quand elle a vu que son fils retournait à l'église, elle n'a rien dit. Mais simplement, elle lui a donné un livre de Mestien. Georges, voilà une petite chose que je t'ai achetée pour toi. Alors, nouvelle, touchante expression de la gratitude du cœur, c'est encore sa mère que Desvalières a représentée quelques années plus tard, en 1910, dans une toile célèbre, sa fameuse Annonciation, où l'on voit une jeune femme pensive assise auprès d'un guéridon d'acajou. En 1910, au cours d'un voyage à Assise, il rencontre Paul Hippolyte Flandrin, qui va le présenter à la Société de Saint-Jean pour l'encouragement de l'art chrétien. La vieille société qu'avait fondée Lacordaire en 1839. Et son second parrain sera Maurice Denis, le grand peintre Maurice Denis que j'aime beaucoup, peintre catholique encore, pour qui il va peindre, toujours en 1910, le Christ à la colonne, qui est très beau, ça. Et la décoration de l'hôtel privé de M. Jacques Rouchier, rue Henri Rochefort, sera sa dernière grande œuvre profane, et désormais, il connaît sa route, il sait l'aboutissement de ses recherches. C'est un témoignage de tendre piété qu'il va rendre à la bienheureuse Jeanne d'Arc. C'est un ex-voto qu'il peint en 1912, en reconnaissance pour la guérison de sa fille. Il raconte que Marie-Madeleine, âgée de 3 ans, le chirurgien devait l'opérer le lendemain, qui était la fête de Jeanne d'Arc, et nous avons prié la sainte pendant la nuit, en lui promettant, si elle nous exaucait, de décorer la maison en son honneur. Et j'avais horreur de ces décorations. Quand le chirurgien arriva le matin, il dit, « Votre fille n'a plus rien du tout. » Étrange. Alors, il fallut chercher des drapeaux. C'était dimanche et toutes les boutiques étaient fermées. J'ai couru jusqu'à l'appartement du marchand en demandant l'adresse de la concierge du magasin. Et finalement, toute la maison était couverte de drapeaux. Il y avait même un étendard avec une image qui était une petite horreur. Nous les remettons depuis chaque année. Et en 1913, au retour d'un voyage en Espagne, il se fait admettre dans le tiers ordre de Saint-Dominique, au couvent des Dominicains du Faubourg Saint-Honoré, à Paris. Il peint alors, entre autres ouvrages, une visitation. Ses modèles seront sa fille Sabine, future religieuse d'ailleurs, qui rencontre sa grand-mère dans une allée de parc. C'est ça la visitation. Desvallières a fait entrer Dieu et la religion dans sa vie familiale comme dans sa vie professionnelle. Alors capitaine de réserve, il reprend du service en 1914. À 53 ans, il est nommé commandant. Il part pour le front avec ses deux fils Richard et Daniel, imaginez, les trois ensemble. Alors il oublie ses pinceaux. La réalité de la guerre le trouble beaucoup. Il est soldat, il est chef, il est responsable d'hommes. Et c'est pas facile. Mais sur Desvallières, ce fameux combattant, comme on dit, on possède le témoignage du fameux sculpteur Paul Moreau-Vautier, qui a été l'un de ses lieutenants, et qui dit que tout le monde l'adorait, tout le monde l'aimait. Il était extraordinaire et apprécié de tous les soldats. Et nous verrons petit à petit la montée vers la sainteté de Georges Desvallières. Georges Desvallières, donc ce peintre religieux remarquable, est à la guerre avec ses enfants. Il sent tout l'horreur, tout le sublime de la guerre. Son fils Daniel s'était engagé à 17 ans et tué en 1915. Georges Desvallières accepte. Il offre cet épouvantable sacrifice qui lui procure, écrit-il, une exaltation et une purification de l'âme. On voit qu'il est arrivé très loin dans son cheminement spirituel. Il écrit d'ailleurs, 10 ans plus tard, dans une préface au catalogue de ses œuvres qui sont exposées au pavillon de Marsan, à Paris. Si la guerre est abominable parce que l'on s'y tue les uns les autres, elle est admirable cependant puisque tout aussi positivement on y meurt les uns pour les autres. C'est une des façons les plus authentiques que Dieu nous offre pour obéir à cette loi du sacrifice dont le Christ nous a donné l'exemple sur le Golgotha, lui qui est mort pour nous. Desvallières est revenu de la guerre sans blessure. Il avait la Légion d'honneur, la Croix de guerre, 3 citations. On peut voir, d'ailleurs, dans l'église de Seine-Port, son village, un tableau intitulé « Mémoriam » qui représente un Christ douloureux et rayonnant, qui soutient le corps d'un soldat mort, dont les traits sont ceux de son fils de 17 ans, Daniel Desvallières. C'était la première œuvre qu'a exécutée Georges Desvallières quand il est rentré dans son atelier. Et c'est par elle que s'ouvre la série de toiles ou de panneaux qui, pendant 30 ans, vont sortir de son pinceau. Ça constitue un ensemble unique dans la production artistique de la première moitié du XXe siècle. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi Georges Desvallières aujourd'hui, hein? Les peintures exécutées par Desvallières à partir de 1919 ou 1920 sont plus près souvent de Matthias Grünewald. Vous connaissez Grünewald, j'espère? Peintre allemand, il y a plusieurs siècles, extrêmement audacieux, dans l'esprit un peu de Léon Blois. Un homme très audacieux. Ça ressemble aussi au tableau de Valdès Léal. Mais ça ressemble pas beaucoup à Frangelico ou Van Eyck. Les visions qu'il porte en lui, ça va le hanter toujours. Et seulement, il va les transposer, il les magnifie. Il les fait servir à la prière, à l'apostolat. Aux yeux des indifférents et des incroyants, il va exposer sans cesse, et sous des aspects divers, le tableau de la souffrance humaine. La souffrance divine aussi. Ça rappelle le livre de François Varion, La souffrance de Dieu. Georges Desvallières, on vient à dire, le prix infini du sacrifice, les voies sublimes de la rédemption. Il faut avouer que ce témoignage du Christ qu'il a voulu rendre dans la France d'après-guerre, la première guerre, d'entre les deux guerres, c'était bien celui dont les hommes d'alors avaient besoin et qu'ils auraient dû mieux accepter, mieux comprendre.
Il raffine pas tellement sur l'exécution, il peint largement, fortement. Il zèbre à grands coups sa toile, qui conserve souvent l'aspect d'une esquisse. C'est bien de la peinture d'homme d'action, de la peinture de combattant. Parfois, pourtant, des œuvres de caractère plus apaisé vont apporter une sorte de détente et des effusions de tendresse. Il introduit sa famille, sa mère, naturellement ses filles, lui-même, dans ses compositions religieuses. La prise de voile de sa fille Sabine chez les Clarisses de Mazamet en 1926. Ta fille s'est faite Clarisse, oui. Ça l'oriente vers Sainte-Thérèse d'Avila, chose curieuse, qui devient le centre de tout un cycle de travaux 1929-1930. Après des œuvres comme le chemin de croix pathétique de l'église Sainte-Barbe de Wittenheim, près de Mulhouse, peint en 1930. Après les décorations de la chapelle de la Cité du Souvenir, édifiée rue Saint-Yves à Paris en souvenir des morts de la guerre, 1931. Puis celle de l'église Saint-Jean-Baptiste de Pawtucket. Oui, Pawtucket, dans le Rhode Island, aux États-Unis. Énorme travail qu'il a exécuté en quelques semaines, parce que, disait-il, il avait recommandé à la Sainte Vierge. Elle l'a aidé, comme dans un sens. Et avant d'aborder le chemin de croix de l'église du Saint-Esprit, qui est un autre ensemble considérable en 1934-1936, il conçoit le projet d'une Vierge Reine des Anges qui figurera au Salon d'automne de 1936. Après avoir parlé du sacrifice dans ma peinture, écrit-il au fameux père Pi Raymond Régamé, que j'ai bien connu et qui a publié un ouvrage énorme sur l'art sacré, qui a fondé la revue L'Art Sacré, qui a tellement fait, le père Régamé, un dominicain qui est décédé malheureusement. Donc il lui écrit au père Régamé le 17 décembre 1932, « Après avoir parlé du sacrifice dans ma peinture, j'ai grand besoin de dire les joies de la prière. Le Magnificat me hante. Je rêve d'une Sainte Vierge joyeuse. » Alors, les critiques d'art n'ont généralement, pour toutes ces œuvres, que des éloges. Georges Desvalières en demeure pas moins modeste, tout à fait humble. Il sait que son don et son talent lui viennent de Dieu. Des esprits timorés viennent à lui reprocher certaines de ses outrances, disent-ils. Il s'examine, se fait la leçon. Il dit, il faut bien prendre garde de ne pas scandaliser. On ne devrait pas mettre de choses qui peuvent heurter tout autour d'une église. Ma peinture, je comprends très bien qu'elle puisse déplaire. Il me semble que souvent, sa place sera dans une chapelle de côté où elle attirerait les visiteurs et lui prêcherait à sa façon. Quand le bruit court que Maurice Denis, le peint l'autre peintre, et lui pourrait bien être condamné à Rome, il dit, cela m'a bien étonné. Mais si c'était arrivé, cela nous aurait seulement appris que nous nous trompions et nous nous serions inclinés tout simplement. Mais il n'a jamais été condamné. En 1918, il fonde l'Arche. C'est une société corporative d'artistes chrétiens. Puis l'année suivante, il revient à son projet d'école d'art, élaboré en 1912. Et il ouvre avec Maurice Denis, rue de Fürstenberg, dans la maison voisine de celle où avait travaillé Delacroix, là, les ateliers d'art sacré. Vous savez qu'on en a ici à Montréal, sous la direction de Dominicain, les ateliers d'art sacré, où l'on tentera de faire renaître, en pratiquant l'ornementation des églises, l'esprit d'équipe des artisans du Moyen-Âge. Son enseignement repose sur des principes établis, là, clairs, c'est ferme. Le but de l'art religieux, c'est de toucher les cœurs, de convertir les âmes. Pas dans le sens ennuyant du terme, là. Toucher solidement, intelligemment et profondément les cœurs des hommes, des femmes, des enfants. C'est pas de la quétainerie, ça. De convertir les âmes, c'est pas de la quétainerie. C'est de les amener au bonheur, à l'essentiel qui est Dieu. Il s'agit d'employer la beauté, dit-il, à éclairer les uns, puis à consoler les autres. Il écrit d'ailleurs, « Ne doit-on pas surtout penser à convaincre les mécréants? Ou faut-il nous en vouloir si nous pensons d'abord à ceux qui sont perdus? nous qui avons été plus ou moins retrouvés. Alors les moyens, bien, soyez d'abord, dit-il à ses élèves, des convaincus. Et il dit cette phrase magnifique. Pour faire du bon travail chrétien, il faut être un chrétien passionné. Pour faire du bon travail chrétien, il faut être un chrétien passionné. Il ajoute, c'est en servant Dieu que l'art était le plus haut, que les artistes ont trouvé les formules plastiques les plus émouvantes et les plus inattendues. Oh, que ces paroles sont donc passées dans l'oubli aujourd'hui devant l'art contemporain, que j'apprécie souvent, mais qui n'atteint pas évidemment les grandeurs des vitraux de Chartres, et même les vitraux de Notre-Dame à Paris, la grandeur des grandes œuvres religieuses. Mais notre art religieux a sombré. Que c'est triste quand on visite au musée du Vatican toutes ces œuvres d'art modernes. La plupart ne disent rien. Il n'y a rien, sauf exception. Il y a quelque chose qui est brisé. Comment peut-on être de vrais chrétiens, de bons serviteurs de Dieu? Eh bien, il dit que c'est en étant humble. Il écrit, mon vieil ami Bachet s'étonnait de mes sentiments religieux. Oui, me disait-il, je crois qu'il y a un Dieu, mais la religion et ses pratiques, non, je n'y comprends rien. Alors je lui ai répondu, dit Georges Desvalières, mets-toi donc à genoux, et alors tu comprendras. Oui, artiste, mettons-nous à genoux, écrit Georges Desvalières, et nous comprendrons. Mettons-nous à genoux, et notre œuvre, dans la mesure de notre talent, glorifiera Dieu. Que notre volonté se tende vers un seul but, être des chrétiens 100%, ne travaillant qu'en toute humilité à la glorification de Dieu, du Saint-Esprit et de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que chacune de nos œuvres ait quelque chose d'une confession personnelle, disant nos sentiments, nos espérances, avouant même nos faiblesses, et comment nous avons pu les expier, les réparer. Or, notre Georges Desvalières, bien, il prêche d'exemple. Et l'amour appelant l'amour, bien, ses disciples, comme ils disent, l'adorent. Ils l'aiment beaucoup. L'un d'eux, qui est devenu le révérend père, couturier, ça vous dit quelque chose, les gens plus âgés, ce dominicain, encore comme le père Régamé, extraordinaire, le père couturier, qui a beaucoup travaillé avec le père Régamé. Le père couturier, qui est déjà venu à Montréal plusieurs fois, dans mon enfance, dans ma jeunesse, je l'ai rencontré, a pu écrire « Ceux à qui Dieu, à certains moments de leur vie, a fait la grâce de trouver sur leur chemin la personne et l'amitié de Desvalières ne l'oublieront jamais. » Son zèle à Desvalières le dévore. Il souhaiterait voir de la peinture religieuse partout, dans les églises et même hors des églises. Moi, j'en ai tellement chez moi que ça fatigue certaines personnes. Mais j'aime ça. Oh, j'ai des belles icônes, des choses magnifiques, que je vendrai un jour, avec grande joie, me défaisant de tout, j'espère. Il écrit, nous devrions peindre de grandes affiches, des murs d'usine, la Sainte Vierge haute de 6 mètres, une Sainte Vierge que tout le monde voit. À force de crier sur les toits, les uns ou les autres finiraient tout de même par entendre. Et c'est dans cet esprit de publicité qu'il organise au Salon d'automne, salon très important à Paris, ça, à partir de 1922, une section d'art religieux. Alors il se réjouit de voir cet exemple imité parfois par d'autres sociétés. Et c'est à Seine-Port, son village, devant les horizons chers de son enfance. Dans la maison de sa famille, qui est pleine pour lui de tant de souvenirs, qu'il a séjourné le plus souvent durant les dernières années de sa vie. Il venait à Paris de temps en temps, de préférence le mercredi, pour assister à la séance de l'Académie des Beaux-Arts, dont il faisait partie depuis 1930. Je le rencontrais, dit l'auteur de ce texte, Pierre Ladoué, je le rencontrais parfois dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, arpentant les rues de son pas toujours alerte, s'arrêtant parfois pour examiner, penché en avant et appuyé sur sa canne, un tableau exposé à la vitrine de quelques galeries. Et au début 1950, une messe a été célébrée à Notre-Dame-des-Victoires à l'occasion des noces de diamants de Monsieur et Madame Georges Desvalières. J'avais d'ailleurs dans ma collection ici un très beau livre, dans une reliure superbe, c'était un immense livre, très épais, Une vie de Marie de Georges Desvalières, tout illustré de lui, qu'il avait dédicacé à la main à sa femme, Madame Desvalières. J'étais entré en possession de cela à Paris et je l'ai donné au musée de l'Oratoire Saint-Joseph. Si on peut le voir là-bas, j'ignore si on peut le voir. C'est un très, très beau livre. Alors, les chants ont été exécutés pendant cette messe par leurs nombreux petits-enfants. Le 12 mars, une manifestation présidée par le nonce a été organisée au Palais de la Mutualité en l'honneur de Pie XII, défenseur de la paix. Oui, défenseur de la paix. Je vais vous en parler dans quelques jours de Pie XII. Et Desvalières quitte encore sa retraite pour apporter son hommage au pape. Il en profite pour faire entendre une fois de plus des paroles de mansuétude. Il dit « Ce n'est pas à coup de canon que nous gagnerons la paix, mais à coup d'amour. Comme nous l'a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ, par la croix et sur la croix. » D'un laïc qui parle. Hein? « N'est-ce pas dire tout simplement que sur cette terre, ajoute Georges Desvalières, pour chacun de nous, chrétiens, il ne s'agit pas d'être le plus fort, mais bien le meilleur. » Et la Société Saint-Jean, dont il est le président depuis 43, a eu l'idée de le fêter le 20 mai 50, l'approche de ses 90 ans. C'est une soirée bien touchante, inoubliable pour ceux qui ont pu y assister, et nous verrons par la suite ce qui arrive et comment est mort comme un saint Georges Desvalières. Que la vie de Georges Desvalières, qui fête donc ses 90 ans, dans une soirée fort touchante, vous ai-je dit, et Desvalières se lève, il parle avec cette simplicité, et avec cette bonhomie qui lui sont propres. Il se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être fêté ainsi. Alors on lui dit qu'il a peint de belles choses. Il répond que ça s'est fait tout naturellement, et qu'il a accepté ce que Dieu lui demandait. Voilà tout. Il évoque les circonstances de sa conversion dans lesquelles il n'a eu de même qu'à se laisser faire, qu'à être docile. Laissons-nous faire par Dieu. Laissons-nous faire, abandonnons-nous. Il nous mène dans les sentiers du bonheur et de la joie. Laissons-nous faire. Et sur un ton de voix plus gai, il dit, « Les choses me sont venues sans que je les ai cherchées. Par exemple, mon mariage. J'allais chez des amis à la campagne, un jour j'y rencontre une jeune fille, leur voisine, et l'année suivante, je la demande en mariage. À Paris, on me dit, « Et quoi, il y avait ici dans nos milieux bien d'autres personnes ?» Mais c'était en 1889, et j'étais alors ce qu'on appelle un mondain. Et j'ai répondu, « Je le sais, mais voyez-vous, il n'y a que lorsque je suis avec elle que je suis content. » Alors il se penche à ce moment vers Madame Desvalières qui sourit et ferme les yeux. Ils sont mariés depuis 61 ans. Elle ferme les yeux. Et l'on voit, c'est quelqu'un qui dit ça, que cela continue. Hein? Et toute l'assistance éclate alors en applaudissements. Il est content, après 61 ans. L'été de 1950 passe, et c'est le dernier été. Tout va s'achever. Durant la nuit du 2 octobre, il dicte encore cette lettre qui est adressée à ses collègues de la Société de Saint-Jean, Société artistique. Le 2 octobre au soir, écrit-il, « Mes chers confrères, je demande à ma fille de prendre la plume pour vous dire que je suis dans une clinique où je souffre physiquement d'une façon assez pénible. » De ces épreuves, je tire une conclusion, que sur cette terre, il n'y a qu'une seule chose à laquelle nous devons aspirer, à l'amour par le sacrifice, les deux ne faisant qu'un. Le surlendemain, Georges Desvalières s'endormait tout doucement, dans le Seigneur. Et on le revêtait sur son lit de mort de sa robe de tertiaire dominicain. Ses obsèques Funérailles ont eu lieu dans l'église de sa paroisse de Paris, là même où s'était accompli son geste de retour à Dieu. Des obsèques sans apparat, sans discours. C'est Paul Tournon qui écrit « Nous aurions voulu évoquer devant tous, sous le porche de Notre-Dame des Victoires, cette figure incomparable d'artiste et de chrétien. Une consigne inflexible nous en a empêchés. Peut-être pour laisser toute leur place aux effusions intimes de la piété de chacun. Effusion, d'ailleurs, profondément émouvante, au spectacle des longs défilés se rendant à la table de communion, et que Georges Desvalières a certainement préféré à toute autre marque d'attachement. Nous n'entendrons plus cette parole qui portait avec elle la confiance, le bonheur et l'espoir. Mais il nous suffira de la trouver dans notre souvenir pour nous sentir réconfortés au moment difficile. C'est vrai que quand on voit un grand défilé s'approcher de la table de communion lors des funérailles, on éprouve, quand on est au cœur de la cérémonie, des sentiments de joie qui nous empêchent d'être tristes et de pleurer. Je me souviens aux funérailles de mon fils où il y avait plus de 200 personnes à la cathédrale, tout ce monde qui a chanté avec vigueur et qui a communié. On dit qu'il y avait près de 300 personnes pour un petit bonhomme de la rue. Oui, Georges Desvalières parle encore. Il continuera longtemps de parler toujours du sacrifice et de l'amour qui ont orienté sa vie de converti vers des tâches sublimes de l'apostolat. Il nous a laissé son message. Il s'agit de comprendre que le sacrifice est un don de soi. Le sacrifice, c'est l'acceptation de choses inévitables afin de toujours conserver cette certitude jusqu'au fond de nous-mêmes que malgré toutes les épreuves, Dieu nous aime et que c'est en l'aimant qu'on passe outre à toutes les difficultés et qu'on arrive au bonheur. En cette fête de Saint-François, je retrouve un texte que m'avait envoyé il y a bien longtemps, où le 10 août 1995, M. Samuel Étier de Sorel, c'est Saint-François, puisque c'est la fête de Saint-François, un texte qu'il adressait à ses prêtres. On trouve ça dans ses œuvres complètes. C'est si beau, et ça nous fait comprendre à nous les laïcs la grandeur des prêtres. Saint-François dit « Considérez votre dignité, vous, mes frères, qui êtes prêtres. » Il s'adresse à ses frères franciscains, quoi. « Vous, mes frères, qui êtes prêtres. » Lui, il n'était que diacre. « Et soyez saints parce qu'il est saint. Et de même que le Seigneur Dieu vous a honorés par-dessus tous par ce mystère, de même vous aussi, aimez-le, vénérez-le, et honorez-le par-dessus tous. Quelle grande misère et quelle misérable faiblesse que de l'avoir ainsi près de vous et de vous soucier de quelque autre chose de ce monde. Que l'homme tremble tout entier, que le monde entier soit bouleversé et que le ciel exulte quand le Christ, Fils du Dieu vivant, est sur l'autel aux mains du prêtre. Ô grandeur admirable, bonté qui nous frappe de stupeur, ô sublime humilité, ô humble sublimité, le maître de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie au point de se cacher pour notre salut sous l'apparence d'un peu de pain. Voyez, mes frères, l'humilité de Dieu, et épanchez vos cœurs devant lui. Humiliez-vous, vous aussi, pour être exaltés par lui. Ne gardez donc rien de vous-même pour vous, afin qu'il vous possède tout entier, lui qui se donne tout entier à vous. Dans le bréviaire aujourd'hui, il y a de si beaux textes. Je vous en lis un tout petit. « Béni sois-tu, ô Seigneur, pour notre sœur la terre, C'est pas Gaïa qui est la déesse de la terre. Gaïa, Gaïa, quelle invention. Béni sois-tu, ô Seigneur, pour notre sœur la terre. Tu l'as faite solide et bonne. Tu en as fixé toutes les mesures. Tu as posé sa pierre angulaire dans le concert des astres du matin, et tu nous l'as confiée pour que nous la rendions habitable. Oui, c'est dans le bréviaire catholique aujourd'hui. L'écologie fait partie de la réflexion profonde des chrétiens.